nous avions évoqué l'autre fois, avec un peu d'humour, comment le Seigneur était venu sur terre pour tricoter, si vous vous souvenez, pour refaire du tricot, pour remettre maille par maille ce que le diable avait démaillé. Et nous en avions conclu que, puisque le Christ avait pris notre chair, qu'il était un avec nous et que nous sommes un avec lui, étant donné qu'il est en même temps qu'homme, qu'il est Dieu totalement, sa nature divine remaillait, refaisait les mailles de notre nature humaine que le diable avait détricoté, pour reprendre les termes que nous avons pris, pour résumer. Et aujourd'hui, je voudrais évoquer une autre question. C'est pas pour faire de la, avoir une, pour développer notre culture théologique, c'est pour nous aider à vivre mieux comme membres du corps du Christ. Parce que il y a une question qui se pose, c'est de savoir comment, puisqu'il s'est fait homme en nous, avec nous, ou nous prenons en lui, comment sa vie à lui nous atteint. Comment ses tentations, ses souffrances, son amour, comment cela agit en nous tout en nous laissant libres. Certains pensent qu'il est venu se présenter comme un modèle parfait, un modèle qu'il nous faudrait imiter. Vous avez un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle « L'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ ». Comme si notre vie chrétienne consistait à l'imiter, bien sûr. Bien sûr qu'il faudrait l'imiter. Mais est-ce que vous avez la force de le faire, vous ? Moi, pas. Et je ne dois pas être tout seul, parce que les pères de l'Église avaient l'air de penser aussi qu'eux-mêmes n'avaient pas tout à fait la force de le faire. Mais que la vie du Christ agit en nous et change quelque chose en nous. Et pour prendre un exemple aussi trivial que la dernière fois au sujet du tricot, je voudrais vous dire que, et ne le prenez pas à la rigolade, je voudrais vous dire que le Christ agit avec nous comme faisant de la course à pied. C'est pas à cause de l'ouverture des Jeux Olympiques qui va bientôt se dérouler que j'évoque cela. Nous sommes des coureurs à pied. Et le Christ ne court pas à notre place. Il ne nous prend pas sur ses épaules pour que nous n'ayons plus rien à faire et que nous arrivions à la victoire sans effort. Il n'est pas non plus un entraîneur. C'est-à-dire qu'il ne se met pas sur un podium pour nous dire « faites ceci, faites cela, mettez un pied devant l'autre, accélérez un peu. » Comme vous voyez, je suis très doué pour imiter les entraîneurs. Bref, il ne se contente pas de nous donner des conseils ou des ordres. Mais il court avec nous. Il court à côté de nous. Il est celui qui nous accompagne. Et en donnant le rythme, en nous donnant plus que l'exemple, en nous donnant la force, alors que nous sommes essoufflés, que nous n'en pouvons plus, lui continue à courir à côté de nous et même éventuellement nous pousse par les épaules pour nous faire faire un pas de plus ou pour nous faire accélérer un peu. Voilà comment la vie du Christ nous atteint, comment elle change quelque chose en nous. C'est bien le Christ qui travaille en nous, mais il faut aussi notre collaboration. En quoi les souffrances, les tentations qu'a supportées le Christ, en quoi ces souffrances changent quelque chose en nous? Bien, ce ne sont pas les souffrances en elles-mêmes, ni les tentations en elles-mêmes qui sont rédemptrices, qui changent quelque chose, qui nous apportent le salut. C'est l'amour avec lequel le Christ a supporté tout cela et a vaincu tout cela pour nous, gratuitement. C'est cela qui nous... C'est son amour dans tout cela qui nous atteint et qui peut nous permettre de courir à côté de lui au même rythme que lui pour arriver au but. Dans ce mode, il faut bien dire le mot, de ce mode de rédemption, ce salut qu'il nous accorde, le Christ a eu deux, en devenant homme, a eu, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, deux actions d'une certaine manière. Il a eu un mouvement intérieur d'amour pour tous et pour tout, qu'il a manifesté aux hommes. Mais ça, c'est une vie intérieure. Et il a accompli, il a réalisé cela à travers des actes, c'est-à-dire à travers sa résistance à la tentation et son dépassement, son acceptation de la souffrance. Il a obéi. Il a obéi à son Père, il a obéi aux hommes. C'était une... Vous pouvez remarquer que je vous parle toujours, depuis l'autre fois, de la kénose. Il a renoncé à l'exercice de sa gloire comme Dieu, pour être en tout par amour pour nous, pour souffrir les mêmes choses que nous. Et nous-mêmes, et ceci à travers l'obéissance, c'est-à-dire à travers une extase, une sortie de lui-même. Il est sorti de sa vie divine pour entrer dans la vie humaine. Et nous-mêmes, si nous courons vers le salut, c'est en suivant la même voie, poussé par les épaules, pour reprendre l'image de tout à l'heure, par lui. Qui nous donne la force, qui nous non seulement nous accompagne, mais nous pousse dans tous les sens du terme. C'est par notre obéissance, par notre sortie de nous-mêmes. L'obéissance, c'est ce don de soi qui nous fait nous oublier nous-mêmes par amour pour l'autre, par amour pour Dieu d'abord, et pour l'amour des autres. Ensuite, comme il était dit dans l'évangile de ce matin, le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur, et le deuxième commandement qui lui est semblable, d'aimer ses frères. C'est sortir de nous, c'est accepter avec amour Donc avec patience, c'est à peu près synonyme, si vous voulez, l'amour recouvre beaucoup de choses, de supporter l'autre, de supporter les circonstances de la vie, de supporter les contradictions, de supporter, c'était encore l'évangile d'aujourd'hui, c'était dans les béatitudes, pardon, la calomnie, de supporter la maladie, de supporter toutes les contrariétés, mais de le faire, pas le supporter par philosophie, mais par amour de ceux qui nous infligent ça, et par amour pour Dieu. C'est en cela que nous pouvons être ses imitateurs. Et c'est dans cela que nous entrons aussi dans notre kénose, dans notre sortie de nous-mêmes. Et c'est la seule manière de pouvoir, je sais pas si on peut dire comme ça, de pouvoir accéder à l'imitation de notre Seigneur. Ce n'est pas une imitation morale, mais puisque nous sommes les membres de son corps, nous devons vivre étant un avec lui, ce qu'il vit parce que lui l'a vécu pour nous. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous accomplissons, nous pouvons le faire avec la conscience de le faire en communion avec lui et avec les autres. Je souffre, j'accepte cette souffrance avec patience, c'est-à-dire avec amour, pour imiter d'une certaine manière, ou en communion, plus qu'imitation, en communion avec le Christ, mais aussi en communion avec ceux qui souffrent. Comment on peut s'aider mutuellement? Quand son mari se tape un coup de marteau sur les doigts, c'est pas moi qui ai mal, hein. C'est elle qui se met le doigt dans la bouche pour essayer de passer le... C'est même elle qui jure. Alors, zut, dis. Mais mon amour pour elle, ma compassion peut me faire souffrir avec elle. Et à la limite, quand moi, pas quel exemple vous donner, quand je trébuche sur une pierre et que je tombe par terre, je peux vivre ça par amour, pas exclusivement pour elle, mais par amour aussi. Et c'est comme ça que je porte ces souffrances. On porte les souffrances, les tentations les uns des autres. Ne cherchez pas à faire comme certains saints, mais c'est un charisme particulier, à vivre au nom d'un autre ou pour un autre. C'est pas parce que Tartempion souffre que je dois, moi, prier pour souffrir à la place de Tartempion pour l'empêcher, pour soulager sa douleur. Ça, c'était un charisme de certains saints, mais c'est pas général, c'est pas ça la voie normale. Ça, il y a un grand risque d'illusion. Mais en revanche, lorsque je souffre, je peux souffrir de cela aussi en communion avec tous ceux qui souffrent, par amour pour tous ceux qui souffrent. Et ça donne une autre résonance, une autre valeur à notre souffrance dans le cadre de la souffrance dont je parle tout de suite. Les tentations, c'est pareil. Le relevage ou le relèvement, par plus exactement, après le péché, peut être vécu aussi en communion avec tous ceux qui se relèvent ou qui auraient besoin de se relever. Et c'est comme ça que je peux aider ceux que je ne connais pas, mais les membres de mon corps, puisque nous sommes tous les membres du corps de Christ. Nous pouvons les aider de cette manière-là à se relever eux aussi. C'est pareil pour toutes nos peines, c'est pareil pour toutes nos épreuves, c'est pareil pour toute chose. Notre vie, quand je reprends l'exemple de se taper sur les doigts avec un marteau, c'est pas simplement mon doigt qui a mal quand je me tape dessus. C'est moi qui ai mal, c'est mon être qui est mal. Et comme nous sommes tous un même être, le corps du Christ. Lorsque l'un tombe, c'est tous qui tombent. Quand l'un se relève, c'est tous qui se relèvent. Quand il y en a un qui a mal, c'est tous qui ont mal. Quand il y en a un qui est mal, c'est tous qui sont malades. Mais quand il y en a un qui guérit, c'est tous qui guérissent aussi. Finalement, notre vie, la vie de tout homme, mais nous, les chrétiens, nous avons la chance de pouvoir en voir le but. Notre vie, c'est de petit à petit de passer cette kénose absolue, d'oublier ce qui nous est trop individuel, ce à quoi nous sommes attachés, à ce monde, en quelque sorte, si vous voulez, de manière à nous attacher à une autre vision. Toute notre vie consiste à passer de la vie de la terre à la vie du ciel, de passer du temps à l'éternité, de passer de ce monde à l'autre monde. Pas simplement, et ceci est le mystère de la mort et de la résurrection. C'est à chaque instant que nous pouvons de cette manière-là apprendre à mourir pour ressusciter en même temps. Notre vie est une vie pascale. C'est toujours passer de la mort à la vie. Pas d'attendre l'arrêt de notre cœur et de notre cerveau, mais c'est tout de suite qu'il faut mourir et tout de suite qu'il faut ressusciter. Et tout ce qui fait la trame de notre vie chrétienne, notre conversion, notre prière, notre ascèse, notre jeûne, notre patience, le support des offenses, et tout ce que vous savez et que je ne peux pas décrire tout de suite, tout cela a simplement pour but, finalement, de nous faire passer de cette vie à la vie de l'au-delà. Et la vie de l'au-delà, elle doit se vivre concrètement aujourd'hui. C'est ce que nous avons vécu, notamment pendant la liturgie. Déposons tous ici du monde pour accompagner le roi de la gloire, nous avons chanté. Toute la liturgie, c'est ça. Quand on chante, je vous l'ai dit plusieurs fois ces temps-ci, le Trisagion, Saint, 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 le Seigneur, non seulement pendant la liturgie, ça nous transfère dans le royaume des cieux, mais quand on dit les prières initiales, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, on est de la même manière transporté dans le royaume des cieux. Ou quand on dit dans son cœur, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur, c'est encore la même chose. Nous sommes à ce moment-là transportés dans le royaume des cieux. De fait. Donc toute notre vie, c'est ce transfert pascal à travers une certaine forme de mort pour la résurrection. Et ceci ne peut se vivre qu'en communion avec le Christ qui lui aussi est mort et ressuscité, de manière à ce que nous apprenions avec lui et en lui à mourir et à ressusciter dans la vie et dans la vie éternelle. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Amen.